Service client de l'année 2024, catégorie banque de réseau pour les particuliers. Plus d'infos sur escda.fr. Prêt immobilier sous réserve d'acceptation de votre dossier par le prêteur LCL. Plus d'infos sur lcl.fr.
Bonjour mon cher Maggie, vous vous êtes senti concerné par l'ombre pause?
Mais
oui, je sais, je suis prévisible.
Je vais dire une chose, je vais me mettre au kung-fu. Voilà, c'est tout, il y a des moments dans la vie comme ça où la vie bascule.
Très belle phrase.
Je vais me mettre au kung-fu.
Alerte info, Nagui se met au kung-fu pour des raisons qui lui appartiennent.
Bah, alerte à Daniel Morin surtout, c'est le premier sur lequel je vais taper, c'est lui. Aujourd'hui, nous recevons Anne Parillo et Laura Laune.
Bonne émission Nagui, 11h30 à l'écoute de France Inter. Les dernières informations avec Laetitia Gaillet.
Arnaud Lagardère est au palais de justice de Paris. Le patron du groupe Lagardère est interrogé dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux. Il est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie. À l'issue de son interrogatoire, il pourrait soit être mis en examen, soit être placé sous le statut de témoin assisté. Les investisseurs font confiance visiblement à l'État pour le cas d'Atos. À la Bourse de Paris ce matin, l'action du groupe informatique a bondi de 14% dans les premiers échanges. Bruno Le Maire a annoncé hier vouloir racheter les activités souveraines d'Atos, notamment les supercalculateurs qui participent à l'intelligence artificielle ou à des produits de cybersécurité. Pour ce faire, l'ancien fleuron de la French Tech dit être satisfait de l'intérêt de l'État et dit aussi avoir besoin d'1,1 milliard d'euros de liquidités pour financer son activité dans l'année qui vient. C'est nettement plus que les 600 millions d'euros estimés précédemment. La dette d'Atos avoisine aujourd'hui les 5 milliards d'euros et le groupe a perdu 80% de sa valeur boursière en un an. Le titre Philips, lui aussi, s'est envolé ce matin. Plus 33%, le groupe a annoncé qu'il allait payer 1,1 milliard de dollars pour régler des litiges aux États-Unis. Cela fait suite au rappel d'appareils respiratoires défectueux pour les personnes souffrant de troubles du sommeil. Un accord a été trouvé avec les plaignants. La situation financière du Comité international de la Croix-Rouge est assainie et stabilisée. C'est son nouveau patron qui le dit aujourd'hui dans une interview au quotidien suisse Le Temps. Le CICR a été secoué par une grave crise financière. Il a dû amputer son budget de 716 millions d'euros cette année et se séparer également de 4000 collaborateurs, soit plus d'un cinquième de son effectif. À la question, le CICR doit-il remplacer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens? Eh bien, Pierre Krahenbühl répond clairement non. Ce matin, nos mandats sont totalement différents. On a déjà suffisamment à faire sans chercher à se substituer à d'autres organisations. Il va faire chaud ce printemps et au début de l'été, des conditions plus chaudes que la normale en France et ce sera plus marqué selon Météo France ce matin sur les régions méditerranéennes. C'est le scénario le plus probable. Météo France dit aussi qu'il est encore trop tôt pour prévoir les conditions météo de cet été semaine par semaine. Enfin, à l'étranger, en Birmanie, on a battu un record de chaleur hier pour une journée du mois d'avril. 48,2 degrés à choc dans le centre du pays. Ce pic s'inscrit dans une vague de chaleur extrême qui frappe depuis plusieurs jours l'Asie du Sud et du Sud-Est. 11h03 sur Inter.
France Inter, 17h. Marie Nisset et Marine Baousson.
Imaginez un théâtre transformé en gymnase, transformé en centre d'accueil. C'est là que se passe la pièce Farewell.
Ce lundi, on va sérieusement parler de sa conception de l'espace avec sa metteuse en scène, Julie Deliquet.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, tous les jours à 17h sur Inter.
France Inter, partenaire de Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874 au musée d'Orsay. Une expérience immersive inédite pour revivre l'inauguration, ce soir du 15 avril 1874, de la toute première exposition impressionniste. Laissez-vous transporter aux côtés de Monet, Renoir, Morisot, Cézanne pour une expédition en réalité virtuelle riche en sensations. Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874, au musée d'Orsay jusqu'au 11 août. Un événement France Inter.
Hey hey, c'est la bande originale sur France Inter.
Folie. Et tous ses amis, Laetitia Gaillet revient à midi. Merci. The Gaillet, à tout à l'heure. Quand même. Avec Lisa Delmoitié, Julien Santilli, Tanguy Pastureau, Daniel Morin. Et aujourd'hui, nos invités, Anne Parillo et Laura Laune. Ravi de vous accueillir pour la première fois, Laura, à ce micro.
Ben, je suis très heureuse d'être là.
Mais bienvenue. Anne vous a expliqué, parce qu'Anne est souvent venue, elle vous a dit, fais attention dans cette émission, ils sont bizarres.
Mais non, elle m'a dit, c'est super, mais tu vas voir, c'est génial.
C'est trop gentil.
C'est vrai. Vous confondez avec quelle émission?
On va évoquer la pièce de théâtre que vous portez toutes les deux, tous les jours. Je ne serais pas arrivé là si ça se passe au théâtre, Antoine. Ça vient à peine de commencer et ça se jouera jusqu'au mois de juin. C'est à 19h du mardi au samedi. À part le 1er mai, à part le 8 mai, parce qu'à un moment, il faut respecter quand même les traditions dans ce pays. Il y a quelques jours comme ça où il y a des relâches, donc renseignez-vous avant de vous pointer là-bas. Le texte est signé à Nico Jean. On va l'évoquer notamment avec elle qui sera tout à l'heure avec nous ici dans ce studio. Mais nous démarrons l'émission par un blind test. Vous qui chantez, enfin tout le monde croit que vous savez jouer des guitares.
Ouais, c'est ça. Ça fait bien la blague, non?
C'est ça. Non, mais c'est la vanne qu'elle fait sur scène, donc je me permettrai pas sinon. Mais d'ailleurs, vous chantez sur scène. D'ailleurs, on dira pas quoi, on dira pas ce qui se passe. J'ai bien reçu les menaces de mort qui allaient avec la consigne de ne parle pas de ce qui se passe sur scène.
Encore
côté musique.
Bah
ouais, c'est... Donc j'ai dit que j'en parlais pas.
Non, là on parle pas.
Là, j'en ai pas parlé.
Bah, pas assez pour qu'on
me bute. Non. Reconnaissez ce morceau.
Daniel, Claude François.
Oui.
J'avais un marteau. Je cognerai le jour.
Non, parce que j'étais en train de regarder une petite actu sur tes feuilles et ils ont dit oh là là, regarde le blind test. Je mais non, les amis.
Donc tu ris parce qu'on te soupçonne de deviner.
Regarde ces sourires.
Ces sourires entendus. Et là.
Tanguy, if you leave me now, c'est Chicago.
Joli. Ouais. Alors vous avez le droit de jouer.
Mais on essaie, mais ça va tellement vite.
On veut jouer, c'est tôt le matin, on doit deviner.
C'est tôt le matin, il est 11h06.
Vous voulez qu'on recommence, Anne?
Non, on doit deviner, c'est ça?
Ouais.
Ah.
Déjà, est-ce qu'il y a un thème? Si j'avais un marteau, if you leave me now.
Ah, un marteau.
Si.
Les outils.
Si, évidemment. Si.
Hein? Oh, oui, d'accord.
Gérald Lenormand.
Joli.
S'il était président.
Joli, Laura.
Pardon, je veux pas être méchant, mais le prénom n'a pas été cité. Normalement, le point est retiré.
Oui, mais les invités ont tous les droits.
De quoi? On n'a pas le droit de dire le prénom?
Il faut dire d'abord son prénom, Laura.
D'accord.
Ça va,
alors,
vous, entre guillemets, vous prenez la main. Mais
okay, je joue le rôle du méchant.
Mais on m'a pas dit les règles avant de commencer, pardon. Mais...
Oh, il y a une tension, j'adore.
Rigole pas. Hein.
Qui chante ça?
Tanguy, les Beatles.
Joli.
If I fell in love with you.
Si je tombe. Ouais, c'est ça. Si je tombe amoureux.
Ah oui, fait.
Et là,
Tanguy, seras-tu là?
Non.
Daniel.
C'est
Julien Michel.
Daniel.
Non, c'est Michel Berger.
Si, France Gall.
Oui. Oui.
Ah non, c'est un petit peu Michel Berger quand même.
C'est ça.
C'est Michel Berger qui l'a écrit.
Donc on est dans l'hypocrisie la plus totale.
Non, elle a raison.
Elle a raison.
J'ai un petit peu raison, voilà.
Mais c'est pas un petit peu dans le spectacle quand même?
Si, et c'est lamentable puisque normalement c'est moi qui le fais.
On est d'accord. C'est pas ce que je voulais dire.
C'était écrit en 79, elle a totalement raison par Michel Berger.
Ouais. Je pleure comme je ris, c'est ma Nancy, mais mon avenir reste gris.
Qui chante ça?
Lisa, Alicia Keys.
Joli.
Je vais arriver, je pars.
Oui, rentre chez toi.
Ah, Whitney Houston.
Non, c'est toujours la même, c'est toujours la même. C'est Alicia Keys. If I ain't got you, si je ne t'avais pas.
Alors, Anne, quand on a répondu et que ça a été validé, c'est pas la peine de tenter.
Ça va se voir.
La démarche était intéressante.
Week-end chargé, alors je sais
pour
pas.
L'instant, 3 points pour Tanguy, 1 pour Daniel, 1 pour Lisa, 1 pour Laura Lone. Tout se joue maintenant. Ça rapporte 4 points et la victoire, Laura.
Tanguy. Bah c'est Étienne Dao et Charlotte Gainsbourg, IF.
Tout simplement.
Exclusif, incisif, infinitif, quoi. C'est chouette cette chanson.
Non.
Ah, moi je me donne.
Victoire de Tanguy Bassureau, bravo Tanguy.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Je ne serais pas arrivé là si, point de suspension, des entretiens d'Annick Cojan que vous portez toutes les deux, en jouant d'ailleurs à tour de rôle la journaliste et l'invité.
Alternativement, oui, ouais. Absolument.
Avec une mise en scène qui joue sur les ombres et sur les lumières, sur une part de naturel, de témoignages de femmes, y compris votre propre témoignage aussi, parce que vous êtes reconnues l'une et l'autre, Laura, dans ses facettes, dans toutes ces femmes.
Oui, complètement. En fait, moi, ça fait complètement un parallèle avec mon spectacle dans lequel je raconte vraiment ma vie de façon assez intime et les choses compliquées que j'ai traversées. Et quand j'ai lu le texte d'Annick Cojan, à la base, je me suis dit, j'ai pas le temps de jouer dans une pièce. Puis je me suis dit, mais en fait, c'est tellement génial, toutes ces femmes qui racontent leur parcours, que ça m'a donné moi-même du courage, en fait, pour monter sur scène avec mon spectacle. Donc il y a vraiment un vrai parallèle entre les deux. Et le texte est vraiment très fort.
Ce qui est remarquable, Anne Parillo, c'est que dans ces témoignages, je ne saurais pas arriver là si il n'y a rien de positif ou de négatif. Mais en l'occurrence, dans la vie, on a pu avancer à cause des échecs ou grâce à certains échecs.
Ouais, mais c'est des parcours, effectivement. Et à part quelques-unes où, effectivement, c'est une rencontre, un accident ou même un bonheur ou un don, la plupart d'entre elles, effectivement, c'est issu de blessures et qui vont du racisme, sexisme, précarité, harcèlement sexuel, violence conjugale et effectivement ou violence familiale, et qu'effectivement on s'aperçoit que ce sont tous les parcours de transcendance et de résilience de ces femmes qui ont su utiliser finalement ce qu'on a détruit en elles pour construire encore plus fort, plus haut, plus loin et arriver à ce que leur destinée finalement soit plus puissante que peut-être elle ne l'aurait été.
Et il y a comme un devoir de mémoire de se dire toutes ces femmes que vous connaissez à travers leurs œuvres cinématographiques, littéraires, musicales, leur carrière, l'image qu'elles peuvent porter, ont en elles forcément une blessure. Ne vous sentez pas seul si vous aussi vous avez une blessure, reconnaissez-vous en elle, et n'oublions pas tout le trajet, tout le parcours de cette société patriarcale qui est toujours là.
Et l'encouragement aussi, ouais. Parce que finalement ça crée effectivement, voilà, c'est des parcours de bravoure, et donc forcément ça encourage tous et toutes à se dire, mais en fait, moi aussi, si je porte une blessure, je peux effectivement essayer de construire quelque chose avec elle. Et ça, c'est extrêmement motivant, et c'est ça que ces femmes définissent et que nous on porte à travers leur voix.
Il y a un moment où d'ailleurs chacune va parler à la première personne et au présent. Vous allez évoquer vous-même et démarrer la phrase en disant Anne Parillo, je ne serai pas là si. Et pareil pour Laura Lone, je ne serai pas là si. Mais à l'inverse, Laura, est-ce qu'il y a des personnages dans lesquels vous êtes tellement reconnue en disant mais je ne savais même pas que tel ou tel artiste ou personnalité avait finalement eu la même expérience que moi,
j'avais eu d'elle. Alors, elles sont vraiment toutes très différentes, elles sont assez éloignées de nous, mais en fait, dans chacune, je pense qu'on peut trouver quelque chose qui nous parle. Je pense à Mona El-Taoui, qui est une militante féministe égyptienne, qui est assez éloignée de moi, mais en fait, de tout ce qu'elle aborde, les discriminations qu'elle a subies, les agressions, etc., me parle moi aussi personnellement.
Non, mais c'est une situation, on peut le dire, absolument incroyable, notamment d'être égyptienne, partie en Arabie Saoudite, et puis là d'avoir subi des viols, des attouchements, et qu'elle décide de porter le voile mais de ne rien dire à sa famille. C'est-à-dire, c'est toujours la loi du silence, c'est-à-dire là où les salauds du monde entier gagnent, c'est sur le silence, et on n'ose pas dire quoi que ce soit dans le cadre familial ou que ce soit dans le cadre, et encore plus quand c'est religieux, mais de se retrouver dans une procession religieuse et totalement coincée, tripotée, violentée sexuellement par des hommes, et de rien dire à ses parents, ce qu'elle a vécu.
Mais je trouve justement que toute la pièce donne envie de parler et donne le courage de parler. Et c'est vrai que quand on vit ce genre de choses, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que moi-même dans mon spectacle, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Qu'est-ce qu'on va penser? Qu'est-ce qu'on va se dire? Et en fait, le fait de voir toutes ces femmes qui portent leurs histoires, qui assument leur histoire de façon tellement libre et tellement libérée de toutes ces considérations de qu'est-ce qu'on va en penser, ça donne beaucoup de courage. Et je pense que ça donnera beaucoup de courage à toutes les personnes qui viennent voir cette pièce de parler. parler et d'assumer leur histoire.
Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais ça a envoyé une alarme sur le téléphone d'Antario.
Il y a un sous-marin dans le studio.
Absolument.
Le mot interdit.
Ah ben toi, t'en as un qui vient de
regarder sur le terrain.
Vous faites beaucoup le parallèle entre votre spectacle extrêmement intime que vous portez jusqu'en décembre 25, si ma mémoire est bonne.
Oui, tout à fait, il y a encore des dates jusqu'en 2025.
Ouais. Et c'était important qu'il y ait ce lien entre cette pièce que vous jouez. C'est pas la première pièce non plus dans laquelle vous jouez, mais c'était important pour vous que ce soit. Je crois qu'il y a il y a un truc de silencieux.
Il y a une fonction.
Il y a quelqu'un qui veut vérifier si c'est vraiment en direct. Il coupe pas ce téléphone. Bah, il faut dire la marque. J'adore. Ceci,
là, vous augmentez le son.
La sonnerie est discrète.
En fait, ouais, je sais pas si c'était important, mais en tout cas, c'était assez surprenant d'avoir cette proposition de pièce au moment où, justement, moi-même, j'ai eu cet élan d'avoir envie de parler et d'assumer aussi mon histoire. Et donc, en fait, ça fait vraiment écho et je trouve que les deux m'apportent quelque chose, m'apportent de la force.
Vous avez déjà dit sur scène, j'ai passé des castings pour jouer au théâtre, j'ai pas souvent été choisie, j'étais pas bonne comédienne. Bonne, oui, mais pas comédienne, m'a dit le directeur de casting, c'est ça, le metteur en scène. Ça vous est vraiment arrivé au-delà de la vanne, je veux dire, en tout cas, la situation.
Ça, pour le coup, c'est une vanne, c'était dans mon premier spectacle. Et non, des castings, ouais, j'en ai fait beaucoup.
Non, mais je veux dire par là, c'était du vécu.
Le sexisme en casting, etc.
Le côté viens chez moi et t'auras le rôle.
Ah oui, bien sûr. Oui, tout à fait.
Bien sûr, genre c'est visant.
C'est pas évident.
Ben, c'est vrai que ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression.
C'est pour ça que quand je vous appelle, vous me répondez pas au téléphone.
Ah, vous le connaissez bien.
Mais non, par contre, ça, je me souviens pas du tout.
Ouais, c'est ça.
Ben, vraiment. Oh, en plus, je pense que
c'est du déni, ça. C'est du déni.
C'est moche. C'est moche. C'est-à-dire que c'est pire que le rejet.
Ah, c'est
au-delà de Ghost. C'est quoi au-delà de Ghost?
C'est toi.
Vous avez déjà une vie réussie, vous pouvez assumer un petit refus. Ouais, hein, de temps en temps, ça va, quoi.
N'accepte rien.
Non, c'était en l'occurrence pour la bande originale.
Mais j'aurais trop adoré en plus.
Je tiens.
Comment il est?
Je ne serais pas arrivé là si ça se passe au Théâtre Antoine, signé Annick Cojan, qui nous rejoindra tout à l'heure. Anne Parillo et Laura Lone sont nos invités jusqu'à midi et demi. Mais d'abord, voici Lisa Delmoitte. Vous n'auriez pas fait la pièce comme ça, vous?
Ben non. Non. pourtant, j'ai adoré la pièce et elle m'a inspirée, mais peut-être pas dans le bon sens.
Ah bon?
Voilà. Moi, je capte pas toujours bien la bonne morale des histoires. Déjà, quand toutes les petites filles se sont dit à la fin de La Belle et la Bête, ok, donc faut pas juger sur les apparences, moi j'ai retenu, ok, donc si t'es moche et seule, tu peux quand même trouver l'amour, Lisa, faut juste l'enfermer chez toi. Je ne le fais pas, bien sûr, je n'emprisonne pas d'amoureux chez moi.
Pour l'instant.
Je vis à Paris, je n'ai pas la place. Avoir un donjon, c'est quand même un peu le signe que t'as réussi. Hein. Mais moi, j'ai même pas de hall d'entrée. Donc je ne peux pas me reposer sur le syndrome de Stockholm pour draguer. Je suis obligée de convaincre les gens de m'aimer pour qui je suis vraiment. Je suis célibataire. Hein. Bref, tout ça pour dire que j'interprète parfois mal les œuvres d'art et dans Je ne serais pas arrivée là si, on se rend compte que beaucoup de grandes femmes incroyables ont eu des enfances difficiles. Hein. C'est un peu un point commun. Donc, si des parents pas à la hauteur donnent des femmes au parcours inspirant, mais je crois que je suis enfin prête à être maman, quoi. J'ai toujours cru qu'il fallait être un parent incroyable pour élever des enfants incroyables, donc j'avais fait un croix sur le projet. Mais donner à mon enfant une enfance difficile qu'il poussera à se dépasser, oh mais ça, mais c'est quand vous voulez, quoi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte d'être une mère décevante. La petite féministe que je vais nous élever, vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, si des parents dysfonctionnels, ça forge un caractère, je vais nous pondre la première femme noire présidente, moi je vous le dis, hein. Après, bien sûr, dans les grandes femmes que vous incarnez, il y en a aussi qui ont eu des parents exemplaires, hein, comme Nicole Kidman. Mais quand même, le point commun de tous ces destins, c'est l'importance de l'enfance. L'humain, c'est comme la béchamel. Tu foires le début, bonjour les grumeaux. Et on peut s'en sortir dans la vie avec des grumeaux. Hein. On peut même les transformer en pierres précieuses, comme ce que vous faites, Anne et Laura, dans votre démarche artistique. Mais quand même, les premières années de la vie sont déterminantes. C'est comme je dis toujours, un enfant, c'est comme une traînée. La phrase n'est pas finie.
Non.
Il faut que je bosse mes intonations. Le français, c'est pas si éloigné que ça du chinois. Un enfant, c'est comme une traînée de ciment. Voilà. T'as pas beaucoup de temps pour bien tout lisser avant que ça durcisse. Et des parents pas à la hauteur, c'est comme un chat qui vient marcher dessus alors que c'est en train de sécher. Ça laisse des traces. Et non, je t'ai pas défoncé quand j'ai pondu cette métaphore. Vraie histoire, c'est le rédac chef qui m'a obligé de préciser ça.
D'accord, okay.
Mais non, j'étais sobre. Mais c'est quand même inspirant de... Mais c'est quand même inspirant de se dire qu'une enfance difficile n'empêche pas de devenir une femme forte. Au contraire, ça donne du courage. Un autre point commun qui ressort de la pièce, hein, entre Virginie Despentes, Viola Davis ou Mona Altaoui, c'est qu'elles expriment leur colère. Une femme accomplie, c'est une femme qui sait gueuler. Et je trouve que c'est une vraie leçon parce que la colère, c'est le territoire masculin, hein, de base. Ils ont leurs propres problèmes, cela dit, les mecs, il y a plein d'émotions que le patriarcat les empêche d'exprimer, hein, comme la tristesse, la peur ou le plaisir de se faire masser. Le nombre d'hommes complètement noués et bossus parce qu'on leur a un jour dit que le palpé roulé, c'était un truc de PD, c'est malheureux. Quoi. Mais la colère, ça, ils ont le droit. Un homme qui s'énerve, c'est un bonhomme. Une femme qui gueule, c'est une hystérique. Mais là, toutes ces femmes qui se révoltent, ben, ça m'inspire. Quoi. Je dis ça parce que moi, je suis incapable de m'énerver. Et d'après une naturopathe, c'est pour ça que j'ai de l'acné. Apparemment, mes points noirs, c'est la colère qui essaye de sortir par tous les trous. Je vous jure, on m'a dit ça. Alors, il faut que je m'arrête ici.
S'il te plaît.
Oui, en général, c'est au mot trou que mes chroniques basculent. Donc, je m'arrête ici, mais je m'arrête pas quand même sans avoir complété la phrase. Moi, je serais pas arrivée là si j'avais pas eu envie de percer pour un jour m'acheter mon propre donjon.
Joli.
Isabelle Moitié sur scène à la Nouvelle Scène tous les jeudis.
Il y a combien de femmes? J'ai peur de citer les noms. Alors, il y a Emma Thompson, je crois, de mémoire, c'est la première.
Il y en a 8. Dont
oui,
deux
mais après,
qu'on partage.
Et après, il y a toutes les projections, il y a toutes les citations
toutes les phrases,
qui arrivent dans
oui.
la mise en scène. Donc, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont présentes avec vous sur scène. Puisqu'il y a toute cette mise en scène faite, encore une fois, d'ombre et de lumière, en jouant sur les mots un peu faciles, évidemment, sortir de l'ombre, se mettre dans la lumière, dire ces mots-là, vous démarrez comme des sortes d'héroïnes de films policiers ou de thrillers quand on a ce cercle et vos ombres qui se découpent et que là tout va et de jouer tous ces personnages, toutes ces facettes, c'est absolument grisant et je suis d'accord avec Lisa Delmoitié sur le fait que ça peut donner beaucoup d'optimisme déjà à tous les parents en se disant je ne serai pas forcément un bon père ou une bonne mère en termes d'éducation. Toutes ces fêlures, mais on a le sentiment qu'il faut quand même une espèce de blessure pour pouvoir donner quelque chose de radieux.
Moi, c'est une théorie que je défends depuis très très longtemps, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, je pense que tout se fabrique effectivement dans les premières années, et que si ces années ont été déséquilibrées, il y a la quête permanente de trouver un équilibre. C'est humain, on veut absolument arriver à marcher droit, et donc si tout a été cassé, on compense. Ouais. Et plus le drame a été important, plus la compensation va l'être, et en fait, c'est retrouver un équilibre sur quelque chose qui a été totalement déséquilibré. Et un équilibre sur du déséquilibre, c'est assez puissant, oui.
Et pour toutes les femmes qui n'ont pas la force de vouloir compenser justement ce déséquilibre de départ, c'est horrible, parce qu'elles n'y arriveront pas, si on suit votre théorie.
Oui, mais est-ce qu'il y en a, en fait?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
Moi, je pense que c'est un moteur, c'est une énergie, et je pense qu'on ne peut pas rester dans la souffrance. Donc, à un moment donné, si la souffrance est ingérable, on va essayer de la dépasser et de la surmonter.
Ouais, on soigne déjà la souffrance, et peut-être on l'a...
Mais je pense que c'est un degré de souffrance, c'est-à-dire qu'à un moment, oui...
La plus belle chose, c'est d'en faire une force, finalement.
Totalement.
De cette,
mais ce que je voulais rajouter aussi, parce qu'on parle des femmes, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est voir la réaction des hommes dans le spectacle. Parce que les hommes
il y a beaucoup de femmes dans la salle.
Ah bon ?
Il y a beaucoup de femmes dans la salle, j'ai trouvé, en tout cas, qu'il y a beaucoup de femmes dans la salle.
Mais en fait, les hommes...
Ah oui, non, heureusement.
Mais les hommes, en fait, réalisent. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas conscience jusqu'à quel degré, jusqu'à quel point les femmes ont
pardon. Continuez. À quel point les femmes, allez-y, finissez.
Oui, c'est ça. À quel point, finalement, les certains vécus dus au patriariat ou dus à la violence masculine, il y en a beaucoup qui réalisent, en fait.
Dû aussi à la société, dû à des siècles. Et c'est ça qui est formidable aussi dans la pièce. On apprend par l'interview, l'entretien entre Annick Ojean et Françoise Héritier, que finalement, ça s'est construit d'une manière beaucoup plus pernicieuse, j'ai presque envie de dire.
Oui, sournoise.
Ouais, dans la manière de nourrir, dans la manière de muscler, et que finalement, au bout de plusieurs siècles, le genre féminin, c'est presque musculairement affaibli par rapport à l'homme, en laissant à l'homme la force, la force et la domination, et à la femme la fragilité et la faiblesse.
Oui, c'est vrai que ce témoignage chaud, de Françoise Héritier n'était pas dans la pièce à la base. On a tenu à le rajouter parce que justement, ça amène un regard, un angle. C'est une anthropologue, donc très scientifique. Et, ça,
et très féministe.
Et très féministe, mais c'est un regard sur comment s'est construit finalement le système patriarcal depuis la préhistoire, en fait. Et c'est un angle qu'on n'a pas l'habitude d'aborder et que je trouve hyper intéressant.
Alors, racontez un tout petit peu ce qu'elle dit.
En fait, ça dit qu'en gros, depuis la préhistoire, elle parle aussi de la différence physique entre les hommes et les femmes. Toujours, les hommes sont plus grands, plus de force, etc. Et finalement, ça viendrait quand même de la préhistoire où les hommes sont réservés les viandes, les protéines, tout ce qui était nécessaire pour fabriquer des os, alors que les femmes, on leur laissait les féculents et les bouillies, graines, en gros. Et que finalement, petit à petit, au fur et à mesure des siècles...
En tant que végétarien, je suis vexé de ce que vous racontez.
Mais moi aussi, je suis végétarienne.
Hein. Alors donc...
Je ne sais pas si à l'époque, ils avaient vraiment une analyse...
On dégolait de la même manière, tous les deux, vous voulez dire? Non, ça
n'a rien à voir. Est-ce qu'il savait vraiment quelles protéines il fallait manger dans les légumes, je sais pas. Mais en tout cas...
Ça reste, nous, on fait attention aux lentilles, aux pois chiches.
Ben ouais, moi, je compte personnellement, je compte tous
évidemment
mes apports. Je sais pas si à l'époque c'était aussi...
C'est fou, c'est fou ce qui nous arrive.
C'est beau la connivence que vous avez.
C'est gênant. C'est gênant.
Amis de protéines.
Il y a dans votre pièce aussi le prisme, évidemment, du féminisme et une définition du féminisme. Il faut arrêter de penser que c'est fait pour dresser les femmes contre les hommes.
Contre les hommes, bien sûr. Mais c'est là aussi où, encore une fois, le spectacle est intéressant, et dans la variété, en tout cas, des femmes que nous avons choisies. Et que, par exemple, effectivement, ça c'est Nicole Kidman qui en parle. Et en fait, parfois dans les combats, ils deviennent hystériques ou ils deviennent agressifs, parce qu'en fait, on a l'impression que la personne qui se bat, en fait, se défend elle, pour les autres, mais elle a un problème elle. Mmh. Et que je trouve que, par exemple, quand on a une Nicole Kidman qui a priori n'a aucun problème de rien depuis le départ, que ce soit financier, physique, réussite, et qu'elle est star, et que finalement elle prend la parole pour défendre la cause féministe, on se dit que c'est donc vraiment quelque chose qui existe de manière universelle chez toutes les femmes.
La définition que vous faites du féminisme, d'ailleurs, dans la pièce, c'est de dire on est pour l'égalité des salaires, on est pour les mêmes droits, on est...
Les droits entre les hommes et les femmes, les droits de la nécessité de la protection de la place de la femme et l'égalité des salaires, oui, c'est, en tout cas, c'est Nicole Kidman, c'est sur ces trois grandes directions qu'elle se bat. Mais effectivement,
mais ce que j'aime bien, c'est
pas grand-chose,
en fait. Pour, on n'est pas contre.
Non, du tout, voilà. Et effectivement, elle dit, et loin de moi, l'idée de vouloir détruire les hommes, quelle connerie. Parce que c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est cette complémentarité qui peut totalement exister entre les deux genres, et que c'est cette richesse que, si elle est associée, ben on sera beaucoup plus puissants tous.
Et toutes, c'est Anne Bouvier qui met en scène. Vous dites, on a tenu à ce qu'il y ait tel témoignage ou tel personnage dans la pièce. Ce n'était pas prévu au début. Alors, comment s'est passé le travail? Il y a eu un travail de sélection, d'incarnation, en disant, j'ai envie de défendre tel propos, ou ça a été choisi par Anne Bouvier?
Alors non, on nous a proposé un scénario où il y avait déjà...
Écrit par Annick Cogent, d'accord.
Exactement. Okay. Enfin, une adaptation du roman d'Annick Cogent. Mmh. Et il était en place, donc, un certain nombre de portraits. Et puis, finalement, on a repris le livre, on a recherché dans les différents portraits.
Mais là, vous êtes parlé en disant chacune, on va lire le livre.
Non,
et...
en fait, moi, j'ai commencé à dire qu'il y avait des personnages qui m'intéressaient plus, que je voulais défendre. Et donc, j'en ai parlé à Laura, et Laura, finalement, a dit, finalement, moi aussi.
Et vous avez fait quoi, alors?
Et oui, il y en avait certains. C'est vraiment partager les témoignages en fonction de ce qui nous parlait, nous, personnellement, et de ce qu'on avait envie de
porter. Ça, c'est à partir du texte initial. Mais l'idée de dire, par exemple, Françoise Héritier, c'est ce que j'ai compris, n'était pas présente. Non. Initialement, dans le premier projet, de dire merci de réadapter finalement la pièce parce qu'on se sentirait plus concerné ou plus proche, ou de défendre ce texte-là, on en a envie. Est-ce qu'il y a eu d'autres exemples à part Françoise Héritier?
Des Pentes.
D'accord.
Qui n'y était pas non plus. Alors, et Kidman n'y était Kidman pas non plus.
Ah oui, donc ça fait quand même... sur 8, 3, on approche de la moitié. Hein. C'est impressionnant. Dire, ouais. Oui, oui.
Non, c'est bien que vous soyez venu, comme ça on peut parler du...
Alors que c'est vous, de mémoire, oui. qui l'incarnez. Quand elle parle du viol, quand elle parle de l'alcool, quand elle parle de sa dépendance et
De la prostitution.
De la prostitution, enfin, et du regard des autres. Oui, mais elle le fait d'une manière extrêmement...
Décomplexée.
Totale.
Mais c'est ça qui m'a plu.
C'est fou.
C'est cette femme qui a fait fait tout ce parcours, qui a tout vu, tout connu, et qui c'est Arias de la Bruyère, quoi. Elle a tout tenté. Et en fait,
Et même touchée par la fragilité des hommes qui font appel à ses services en tant que prostituée.
Que
quoi.
Prostituée, ouais. Totalement. Elle les a presque trouvés touchants.
C'est ça.
Mais effectivement, c'est un parcours qui, moi, m'intéressait parce que elle est totalement légitime pour parler vraiment de l'obscur des âmes, puisqu'elle les a connues, elle les a fréquentées et qu'elle a tout essayé.
Je ne serais pas arrivé, et eux, là, si c'est important, ce n'est pas uniquement une pièce sur le féminisme, je ne veux pas la réduire, même si le combat est extrêmement important, ce n'est pas que ça. Il y a toutes des expériences, il y a aussi des citations d'artistes. Je ne serais pas arrivé là si un prof ne m'avait pas donné le goût de la musique ou du théâtre, une chance, voilà, un nom, une main tendue, une opportunité de le faire. Et puis il y a aussi des situations beaucoup plus violentes, déstabilisantes, dont on a déjà parlé, on continuera d'en parler d'ailleurs jusqu'à midi et demi, et notamment avec Annie Cogent qui a posé cette question, je crois, à une trentaine de femmes.
Enfin, sur son livre, une trentaine de femmes, mais en réalité, pour le journal Le Monde.
C'est une série, ouais, c'est ça.
Des centaines. Ouais.
Elle sera avec nous tout à l'heure. C'est au théâtre Antoine Anne Parillo et Laura Laune au théâtre. Voici tout de suite. Et hey, Julien, sortez. Et coucou à la radio, toi.
Bonjour. Allez, bonjour. C'est parti, sans transition. Bienvenue dans un autre style, dans la quatrième chronique de Julien Santini. La quatrième chronique de Julien Santini. C'était hyper profond, hein, que je viens d'entendre. Ah ouais. Arrivé sur mon truc, je vous avoue que c'est... Allez, on y va quand même. Je vous aime beaucoup, Anne et Laura. Très contente déjà de vous revoir, Nagui. La dernière fois, vous étiez en vacances. Les gens autour de cette table, et j'ai une liste de noms, n'ont pas lésiné sur les vannes autour de ce break, eh bien moi, je n'aime pas ça. Et même si on se connaît depuis peu, Nagui, sachez que j'ai ressenti tout de même un manque. Surtout que c'est officiel, je crois que je fais partie, pour un moment, de la bande.
Oui.
Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis permis, je crois, de refuser un remplacement qui m'a été proposé la semaine dernière. Donc, si on m'avait dit que je me permettrais le luxe de dire un jour non à France Inter, c'est que vraiment, je me sens en confiance. Le premier qui me coupe dans la chronique, sauf si c'est Nagui, elle revient pas autour de la table la semaine prochaine. Après, il faut être réaliste. Si Laura Domange, ma sœur que j'aime et que j'embrasse, n'était pas partie en congé maternité, je ne serais peut-être pas là. Par contre, je veux parler, voire honorer le choix moral, symbolique, éditorial et politique de France Inter, qui consisterait visiblement à remplacer donc une femme enceinte par un mâle alpha blanc de 40 ans. Alors moi, honnêtement, je n'aurais pas osé, mais franchement, j'ai toujours admirer le panache. Après, il faut savoir pourquoi j'ai dit non. Les amis, ce jour-là, j'ai fait mes premiers pas comme acteur dans la série L'Art du Crime sur France 2.
Waouh,
wow, youhou, bravo Juju Bellorgan.
Bravo.
Alors au début, merci beaucoup Daniel, j'ai eu peur, hein, parce que dans la série, il m'avait vu dans deux rôles. Le premier, c'était celui du médecin légiste. Et moi, je trouve que c'est hyper cliché. C'est toujours celui qui intervient et qui dit « Si je regarde la plaie au niveau du cou, je dirais que la mort remonte entre minuit et 1h du matin. Les empreintes, capitaine? Non, on a fait tous les relevés, aucune correspondance. » Alors heureusement, ça n'est pas le rôle du médecin légiste, mais
tu
celui...
Bien, en tout cas.
Merci beaucoup.
Vraiment, j'y étais là, et j'avais envie de savoir qui a tué.
Bon, eh ben, je peux pas le dire, je n'ai pas fait ce rôle. Non, c'est pas celui-là, c'est celui du suspect en garde à vue. Et là, on quitte les clichés, on respire. J'ai, dans cette série, rencontré Nicolas Gobbe. Nicolas Gobbe, c'est l'acteur principal qui est formidable. Même si j'avoue, notre premier échange a été un peu compliqué, je vous raconte. Je vais le voir. Je suis quand même plutôt sympa, je me présente. Je le félicite pour son rôle dans le film Le Chant du Loup. C'est plutôt sympa. Et Vlatipa qu'il me répond. Alors je suis sympa, que je me suis présenté, que je le félicite. Qu'il me répond qu'il n'a pas joué dans ce film. Alors,
Bah oui.
Pour garder la face, je lui dis, et c'est la vérité, que je suis désolé et que je l'ai confondu avec Alexis Michalik, qui lui a vraiment joué dans le film. Mais tout ça, c'est subjectif, parce qu'il me répond à ce moment-là qu'il ne ressemble pas du tout à Alexis Michalik. Mais ça, c'est subjectif. Vous voyez, moi, les gens, souvent, ils trouvent que je ressemble à Antonio Banderas. Alors que moi, de prime abord, je ressemble plus, je pense, à Enrico Macias. Donc, je ne peux pas savoir. Ce matin, on évoque des femmes inspirantes. J'en ai trouvé une exceptionnelle en la personne de la réalisatrice Floriane Crépin de cette série. Floriane Crépin, c'est un leader formidable. Alors, je dis un leader, je fais attention parce que c'est un terme qui pourrait être masculin. Donc, franchement, je n'y suis pour rien. Je ne voudrais pas avoir de problème autour de cette table au vu de la thématique. Anne Pario et Laura Lone. Je sens que le moment peut-être un peu technique de la chronique arrive et qu'il faut que je le négocie habilement. Vous savez, un peu comme dans la voiture avec le moniteur d'auto-école à l'entrée d'un virage qui dit on ne panique pas, on réduit un peu la vitesse, on regarde autour de soi et on est vigilant. Donc je regarde et je suis sur le qui-vive. En tout cas, la réalisatrice, elle était super satisfaite de mon travail. Elle me l'a dit à la fin, elle m'a dit franchement félicitations, c'était génial pour ta première série, ta première scène. Même si on l'a eu à la 17e prise, eh bien c'est génial. L'important, c'est Julien, qu'elle soit dans la boîte. Donc Floriane Crépin, femme extraordinaire. Il y en a d'autres autour de cette table ce matin, mais il y en a une que je connais un peu plus que les autres, c'est toi Laura. Laura, je suis hyper ému d'être avec toi ce matin, je me rappelle la première fois où j'ai découvert tes vidéos, je te l'avais dit d'ailleurs, je trouvais que c'était drôle, classe, intelligent, et ce sont des qualités qui me parlent énormément. Ce sont des qualités qui me font écho en tout cas. J'ai lu tes interviews Laura, et comme toi je me suis toujours senti un peu à part. Du coup, récemment, trop tard mais au moins je l'ai fait, eh bien, j'ai passé le fameux test de HPI, haut potentiel intellectuel. Et il se trouve que je ne l'ai pas eu. Mais c'est là que j'ai compris que forcément, du coup, eh bien oui, en fait, je l'étais. Parce que c'est la preuve que j'ai du mal à entrer dans les cases. Parce que tout ça est formaté. Et je sais pourquoi la société tient à ne pas me donner cette étiquette. Parce que je dérange. Alors, c'est la fin de cette chronique. Je resterai bien des heures, mais je vous laisse parce que je passe un casting, et c'est vrai, cet après-midi. Et c'est, on me souhaite bonne chance, c'est pour Meurtre à Nîmes. Et c'est pour le coup, pour le rôle du médecin légiste.
Bravo.
Merci la bande et à la semaine prochaine.
Merde, on ne répond pas, on dit c'est gentil.
Exactement. vous connaissez ou pas? Je sais pas s'il y a un côté belge forcément entre Lisa et Laura.
Non, mais moi je te connais de vue quoi. On s'est jamais rencontrés en vrai, mais je te connaissais.
Je te connais aussi, bien sûr.
D'accord, parce que vous avez commencé en Belgique dans des comedy clubs.
Ouais.
Enfin, un cimetière, si j'ai pas de mémoire.
C'est avant moi. Au Kings of Comedy, ouais, toi aussi.
C'est ça, c'est en face d'un cimetière, non?
C'est parce que c'est en face du cimetière d'Ixelles.
Non, ouais. Mais c'est vrai, c'est un endroit très, très vivant, mais ça n'a pas de son nom. c'est vrai, en Belgique, le cimetière d'Ixelles, c'est vraiment l'endroit où on fait la fête. Et
quartier étudiant.
Ouais, voilà. C'est la Belgique, quoi. C'est...
Ok. Mais c'est la France qui vous a accueilli à bras ouverts, évidemment.
Ouais, mais en fait, en Belgique, il y a quand même moins d'endroits pour démarrer. Ouais. Alors qu'à Paris, pour le coup, il y a beaucoup plus de comédie club et de théâtre qui programment des gens qui ne sont pas connus. Alors qu'en Belgique, quand j'ai commencé, ben, quand tu n'es pas connu, en fait, tu as du mal à être programmé, quoi. Donc.
Et la France que vous traitez de pute,
dans, ça peut m'arriver.
Dans un morceau qui a été censuré par la télévision française. C'est-à-dire que vous l'aviez fait pour le grand oral et on vous a coupé au montage.
Oui, ça m'a souvent arrivé qu'on m'appelle en me demandant « Ouais, tu veux pas faire un sketch, un truc ? Vas-y, on adore ton humour, vas-y à fond. » Moi, j'y vais comme d'habitude. Et puis après, souvent, quand on lit le texte, on dit « Ah, par contre, il faut couper ça. Mmh. » Et moi, je dis « Bah non, en fait, je vais pas couper. Soit je le fais en entier, soit je le fais pas. Mmh. » Ce qui fait que finalement, c'est eux qui me coupent au montage. Mais
voilà, mais maintenant ça donne du biscuit pour les réseaux sociaux et en disant.
J'avais sorti la chanson du coup sur mes réseaux. Mais le fait, c'est qu'ils m'ont dit on adore, c'est génial.
Ils n'osent pas quoi.
Mais ils n'osent pas. Ouais. Mais bon, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la tournée qui est pleine et puis il y a un public pour ça, donc ça fait plaisir. On n'a plus forcément besoin des télés et tout ça, donc c'est cool.
Le fait que ce soit dans cette pièce où vous jouez toutes les deux, qu'est-ce qui vous a décidé, Anne Pario, à accepter ce rôle et à y mettre votre propre témoignage dedans?
Alors, sur le propre témoignage, c'est parce que finalement, effectivement, où on jouait le jeu ou pas, et à partir du moment où toutes les paroles de ces femmes étaient tellement vraies, tellement puissantes et tellement justes, qu'on ne pouvait pas se permettre, nous, de ne pas l'être non plus dans ce qu'on allait dire sur soi-même.
Oui, sauf qu'il y avait peut-être un bout de vous déjà dans chacune de ces femmes et des situations que vous évoquez qui trouvaient écho
totalement
dans votre propre histoire.
Donc, ça,
donc il ne fallait pas se répéter non plus en disant bah, moi aussi, j'ai vécu ça.
Oui, et là où vous avez raison, c'est que moi, la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce spectacle, c'est qu'en fait, moi j'ai du mal effectivement à parler de moi frontalement et à dire ce qui se passe à l'intérieur de moi ou ce que j'ai pu vivre, et que finalement à partir du moment où je vais avoir un personnage ou un appui ou une interface, là je peux exprimer des choses. Et par exemple, c'est vrai que je m'étais jamais positionnée sur le féminisme et que ce spectacle me permet de pouvoir dire là où je me situe par rapport à ce combat. Et pareil pour tout ce que ces femmes déclarent ou définissent, ou à travers elles, et puis à travers elles aussi, je découvre des choses de moi-même, et ça c'est très puissant aussi finalement, parce que de la même façon que il y a un côté aussi spectatrice de ces femmes, même si on incarne leur voix.
Mais vous aviez été déjà interrogée l'une et l'autre sur le MeToo, sur le hashtag MeToo, sur le balance ton porc, ou sur des situations que vous aviez pu vivre dans le passé, dans des castings avec des producteurs, d'autres, ou des mains baladeuses sur des tournages, je sais pas, tout ça, ce sont des choses qui arrivent d'une manière presque incontournable, parce que ça fait partie de cette société patriarcale, justement.
Oui, mais c'est vrai qu'il faut les resituer à l'époque. Moi, je suis plus âgée que Laura. Et ça
va énerver beaucoup de gens, le côté « c'était à l'époque et c'est plus pareil aujourd'hui ».
Non, je dis pas du tout que c'est pas pareil.
C'est pas parce que c'était à l'époque que c'était tolérable.
Je dis pas que c'est tolérable, je dis qu'à l'époque, on n'a pas eu cette conscience et cette clairvoyance. Oui. J'avais pas fini ma phrase.
C'est encore le mec qui coupe la parole.
Pardon, mais c'est... Enfin, je me mets...
Tais-toi, ça suffit.
Et qu'effectivement, on n'avait pas cet éveil sur le fait que ce n'était pas normal et qu'il fallait considérer ça comme un abus ou comme une agression. Et aujourd'hui, c'est clairement défini, clairement statué, et qu'aujourd'hui, c'est insupportable et qu'on réalise, en fait, que ça ne doit pas exister, que ça n'aurait jamais dû exister. Mais pour ça, il fallait qu'il y ait un éveil et que toutes ces femmes, à commencer par celles qu'on incarne et celles aujourd'hui qui témoignent et qui parlent de leur de ce qu'elles ont pu vivre, permettent effectivement à une société de bouger les lignes, d'avancer et de progresser à cet endroit-là.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines femmes se...
On était après post-68, où tout était permis, où on avait dit plus rien n'est interdit.
Tout était permis que dans un sens, on a l'impression. C'est-à-dire que tout était permis de la part des hommes sur les femmes.
Oui, c'est vrai. Exactement. Mais c'est ça qui a été mis dans leur cerveau.
Voilà,
en tout cas.
Ça. Tout est permis, donc on va y aller, on va abuser.
Exactement.
Et on va jouer avec les mains baladeuses, on va tout se permettre. Tu veux le rôle, il faut coucher.
Oui, et d'utiliser ce pouvoir comme un abus. C'est effectivement l'abus de pouvoir et de nous mettre dans des situations où, il y a ce deal qui est présent.
Mais qui allait loin d'une manière assez. Totalement perverse, même pas du tout assez. De se dire, dès l'instant où une actrice joue dans un film, il y aura forcément une scène où on la verra nue, où on la verra prendre sa douche, que ça serve ou non l'histoire. Mais
ça sert à la joliesse de l'image, a priori.
Voilà. Est-ce que vous avez vécu des situations parmi celles que vous racontez sur scène?
Je réfléchis à mes personnages.
Non, mais sans forcément que ce soit vos personnages, mais de ce que vous entendez, ça trouve écho?
Oui, absolument. Je trouve juste qu'elles sont dans une démarche encore plus violente, non pas c'est pas forcément que des guerrières, mais violente dans les parcours qu'elles ont subis. Et en fait, c'est même un cumul, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pour certaines, c'est non seulement les agressions, mais c'est aussi la pauvreté, et c'est aussi le racisme, et c'est aussi... Donc il y en a qui ont cumulé une dose de difficultés. Mais oui, mais on est tous d'accord pour dire que on est passé par une époque où effectivement, il était difficile de se faire considérer et de se faire respecter et de passer outre.
Donc vous avez croisé des prédateurs. Sur votre parcours.
Ah oui, et puis moi, mon parcours est jalonné de Pygmalion, donc c'est clairement défini, où j'ai toujours eu à mes côtés quelqu'un qui a décidé pour moi, quelqu'un qui a organisé pour moi et qui a décidé de comment je devais être, qui j'étais et qui m'a fabriqué. Et c'est seulement aujourd'hui que je réalise que je peux reprendre mon identité et si je dois être sous une emprise, que sous la mienne. Mais moi, j'ai passé ma vie sous emprise.
Laura Lone ? Même discours pour vous, vous avez aussi ce sentiment-là ?
Ouais, complètement, et je pense que ce qui...
Alors que pardon, c'est pas faire insulte de dire c'est pas, vous n'êtes pas de la même génération, ni du même milieu, en l'occurrence, on se dit dans le monde de la comédie, c'est peut-être plus léger ?
Bah non, pas du tout, et je pense qu'il y a, ce qui a permis cet éveil, c'est justement toutes les femmes qui prennent la parole aujourd'hui, et comme Virginie Despentes le dit dans la pièce, on a l'impression, avant d'en parler, qu'on fait partie d'un très faible pourcentage de la population. Quand on voit toutes ces femmes qui prennent la parole, on se dit, mais en fait, est-ce qu'il y a une femme aujourd'hui qui n'a jamais vécu une agression sexuelle ? C'est incroyable.
De frotteurs dans les transports publics.
Oui, oui, c'est ça. Ça, oui. Et c'est assez incroyable de réaliser ça aujourd'hui.
Vous espérez que ce spectacle aura un écho sur les spectatrices qui viennent vous voir, qu'elles aient eu à subir quelque chose sur quoi elles n'ont pas pu se reconstruire, ou même celles qui n'ont rien subi, mais pour savoir que ça existe.
De les protéger, et que ça concerne y compris des
de
enfants.
Mais ce que vient de dire Laura, elle a raison. Dans le discours de Virginie Despentes, elle pense qu'elle fait partie d'une exception. Et ouais. Ça, c'est incroyable, en fait. Des 0,0001% des filles qui n'ont pas eu de chance. Alors qu'en fait, ben non, effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est le contraire. Le pourcentage est extrêmement élevé. Mais c'était quoi votre question ?
Non, la question c'était, est-ce que vous espérez que ça aura un impact, utile. Un écho sur les spectatrices
faire un
qui
spectacle
vont venir.
Utile, ouais,
ah,
c'est
ben
ça.
En tout cas, c'est les témoignages qu'on en a, bah, que ce soit d'ailleurs sur les sites de Billets Reducs ou autres, et aussi les retours des gens qui viennent voir le spectacle et qui sont totalement bouleversés ou totalement encouragés, comme on le disait tout à l'heure, à dire, mais dans ces cas-là, moi aussi, à partir d'aujourd'hui, je réalise que je me suis trouvée dans cette situation et que c'est terminé et que je vais avancer dans cette direction de que ces femmes me proposent, en fait.
Donc ça marche.
Les hasards, de la vie, des rencontres, les révoltes, les agressions et la parole libérée. On retrouve tout ça sur scène avec la musique de Julien Vanier.
Oui.
Le problème du rapport entre les sexes, c'est un problème politique. C'est le problème politique majeur.
Je ne serais pas arrivé là si, point de suspension, signé Annick Cogent, qui sera dans quelques minutes notre invité. La musique compte dans vos vies, vous l'avez prouvé avec ce blind test décoiffant que nous avons vécu tout à l'heure.
Vous êtes prête pour demain.
On va commencer en 96, Anne Parillo vous écoutiez à ce moment-là. Chanson de Prince, reprise par Shinee O'Connor, qui elle aussi était une battante.
Une révoltée.
Révoltée, absolument.
Une rebelle.
Cette musique évoque quoi ? Pourquoi l'avoir choisie à ce moment-là ?
Alors déjà parce que moi, Shinee O'Connor, c'est une admiration sans borne pour la femme qu'elle est, la rebelle et le discours qu'elle
qui
a tenu.
Déchiré la photo du pape.
Exactement. Le talent. Absolu, mais aussi sur cette chanson précise, parce qu'en fait, elle hurle au manque d'une personne, que ce soit un amour ou que ce soit sa mère. Et la façon dont elle l'exprime dans cette voix qui est d'une puissance, on a tous un être qui a disparu et qui fait qu'on ne vit plus pareil et on n'existe plus pareil parce qu'il n'est plus là ou elle n'est plus là. Et c'est une déclaration, en fait, d'amour à un être perdu.
Et à cette époque-là, en 96, vous donnez la réplique à Matt Dillon dans Frankie Starlight de Michael Lindsay-Hogg. Vous jouez aux côtés de Leonardo DiCaprio, que des grands noms, des grandes stars. Et c'est impressionnant de tourner avec des notoriétés aussi importantes où finalement, ça reste des êtres humains. On va se calmer.
Alors moi, j'étais très impressionnée... Et surtout par Leonardo DiCaprio qui sortait du succès de Titanic, donc c'était la star planétaire. Sauf que eux m'ont permis complètement de relativiser parce que eux ont été, et encore une fois, surtout Leonardo, a été d'une telle simplicité et d'un tel
élégance,
accès. Ah, mais d'une élégance incroyable, d'une générosité, d'une tendresse même, qui m'a complètement estomaquée. Et effectivement, il a des vrais repères, il a un certain équilibre qui lui a permis de jamais perdre ses cellules, quoi. Il est vraiment en place et ça a été un bonheur de partager avec lui. Matt Dillon aussi, mais beaucoup plus américain dans le comportement, dans l'attitude, mais très sympathique aussi.
le travail américain est si différent que le travail entre guillemets européen.
Pour les acteurs,
même pas dire à la française, mais je veux dire européen.
Pour les acteurs, oui, ouais. Parce qu'en fait,
on peut leur parler directement ou il faut passer par un agent ou un secrétaire.
Oui, alors ça illustre un peu ce que je vais dire maintenant. C'est les rois, les acteurs. En France, c'est le réalisateur qui est en position de pouvoir et qui est le chef absolu de toute l'aventure. Aux États-Unis, c'est l'acteur, parce qu'ils estiment que c'est lui le médiateur des émotions, des sensations, et donc de ce qu'on va voir sur l'écran. Il faut surtout n'interférer.
Pas le polluer, ouais.
Faut pas le polluer, parce que c'est le dieu absolu au moment où il doit délivrer sa scène.
Laura Loun, vous écoutiez en 96.
C'est une autre ambiance.
Ah bah c'était pas tante aussi, hein.
Ouais.
Bah aussi.
J'avais 10 ans.
Et à ce moment-là, vous étiez la petite à l'école. Vous dites, j'étais toujours considérée comme la petite, mais presque au sens effacée, qui reste dans son coin.
Ah
quoi.
Oui, complètement. J'étais
la
petite
qui se cache, quoi.
Ouais, j'étais très timide, je parlais pas beaucoup. Et oui, on m'a toujours appelée la petite, toute ma vie.
Vous avez, à quel moment vous êtes rendu compte que le rire était votre moyen d'expression préféré? Parce que c'est clairement pas la musique.
En fait, c'était clair.
Elle prend plus les vannes, t'as vu les moments.
Mais non, j'ai d'autres références musicales qui sont beaucoup plus chouettes, par après. Dont j'ai moins honte. Le rire, c'est venu un peu par hasard. Moi, j'admirais beaucoup les gens qui faisaient rire autour de moi, en fait. Tous les gens qui faisaient rire. Et pour moi, le rire, c'était une sorte de lubrifiant social. Et comme j'avais beaucoup de mal à créer des contacts socialement, je me suis dit, mais en fait, l'humour et le rire, c'est la clé de tout ça.
Vous avez déjà entendu la phrase « faut coucher pour réussir » ?
Oui, enfin, oui.
Non, je parle dans votre vraie vie, hein. je parle pas dans le...
Dans, c'est pas
dans,
un test,
dans les vannes. Non, dans votre spectacle, vous en faites une, vous faites un parallèle avec le toboggan, si j'ai pas de mémoire.
Oui, c'était dans le premier spectacle, ouais. Oui, tout à fait. Oui, mon arrivée dans le milieu du théâtre a été... assez jalonnée de sexisme et de misogynie, ouais.
Y compris dans le milieu du stand-up.
Ou c'est plus... Le milieu du stand-up, c'est venu un peu plus tard. J'ai commencé par le théâtre, où là, c'était compliqué au début. Le stand-up, c'est venu par après. Moi, ce que j'ai surtout observé dans le milieu du stand-up, c'est la différence à chaque fois. C'est qu'on on analyse tout, mais c'est comme tout, dans tous les milieux, à travers le prisme du genre. C'est-à-dire que quand t'en parlais tout à l'heure, quand une fille va être stressée pour monter sur scène, on va se dire, ah bah, elle gère pas ses émotions. Alors qu'un mec, on va se dire, bah, c'est normal, c'est stressant ce qu'il fait.
On va même dire, c'est trop mignon. Il est fragile. Oh, comme il est mignon, il est fragile.
On peut dire ça aussi. Quand une fille est exigeante, on va dire, ouais, elle est casse-couille. Quand un mec est exigeant, on va se dire, bah, c'est normal, il est pointilleux, il est perfectionniste. Ouais. Et tout ça, c'est des choses que j'ai observées beaucoup, beaucoup dans ce milieu.
Toujours maintenant ?
Oui, franchement, ouais.
Alors qu'aujourd'hui, vous êtes une perfectionniste casse-couille, ce qui est quand même différent.
Double casquette.
On sent une évolution. En 2011, Anne Parillaud, vous écoutiez encore une voix qui donne des poils, Azafa Vidan. Et à cette période, en 2011-2012, vous jouez dans La Marquise des Ombres, où vous jouez deux rôles à la fois.
Deux rôles dans La Marquise,
ouais.
Non, je joue l'empoisonneuse qui a tué son père et ses deux frères au XVIe siècle, à Brinvilliers.
Et ce que le jour doit à la nuit, ce sont ces deux personnages qui comptent énormément pour vous, parce qu'ils sont justement totalement d'un spectre différent. C'est l'exercice, le plaisir d'une actrice de pouvoir tout jouer, que ce soit en costume moderne.
De tenter d'exister dans des précipités de vie, en fait. C'est ça l'énorme privilège d'être acteur, c'est que parfois, sans avoir fait les études, si on doit incarner une avocate ou un médecin, parfois, sans avoir eu le vécu exact du personnage qu'on porte, finalement, ça nous permet de rentrer complètement dans un univers et dans une émotion aussi.
Ouais, mais là, très noir quand même. L'une est empoisonneuse, l'autre apporte le malheur. Enfin, on n'est pas... Pas dans la comédie.
Alors moi, c'est là où c'est intéressant de travailler avec Laura. Je pense qu'on est d'univers assez différent et que moi, le tragique me parle.
Vous aimez rire aussi.
Ah, j'adore rire.
Et faire rire, non ?
Je sais pas si je suis douée. Je sais pas si j'ai.
Ça vous tente ou pas ?
De jouer une comédie, ouais.
Ah, j'adorerais. Ouais. J'adorerais. Mais l'absurde, je pense qu'il faudrait m'emmener vraiment, du coup, dans l'excès inverse. C'est-à-dire l'absurde total. Là, je pense que je pourrais trouver.
En tout cas, le message est passé.
Laura, oui, exactement. Laura Lone en 2011-2012.
Sens de la fête. Hein.
Pourquoi ce titre? Zaltag.
C'était un peu ma période punk, bah, qui est toujours là. J'suis très fan de ce groupe qui s'appelle Die Toten Hosen, que j'écoutais en boucle. Et ouais, c'est vraiment le mouvement punk. C'est un groupe de vieux punk rock. Ils ont 70 ans aujourd'hui, mais
Et alors?
Eh ben.
Et à l'époque, vous étiez en école d'architecture. C'était la première carrière que vous vouliez embrasser.
Je finissais l'archi et je commençais à passer les castings pour jouer au théâtre.
Vous êtes même retrouvée, j'ai vu ça dans un documentaire sur Canal, prof dans une école de maçonnerie.
Ouais, c'est ça, j'ai été prof de maçonnerie un petit peu.
Mais comment c'est possible?
Bah, j'ai eu mon diplôme d'architecte.
Même eux avaient l'air surpris dans le doc. Hein, quand... On est d'accord.
Mais moi aussi. Non, et puis en fait, j'ai eu cette place. Je travaillais avec des élèves qui faisaient. Je donnais des cours de matériaux de construction. Enfin, c'était en lien avec mes études d'architecture, en tout cas. J'ai pas fait ça très longtemps, mais ça reste une expérience. Je garde quand même des bons souvenirs. Même si c'était compliqué, c'était une école de mecs et c'était pas évident, mais c'était cool.
Voilà, encore. Encore.
Quelle bande de salauds.
Revenons à cette pièce au Théâtre Antoine avec ce texte signé Annick Ojean qui nous a rejoint. Bonjour Annick,
merci
d'être présente à ce micro, journaliste, grand reporter au Monde, l'auteur de nombreux livres dont Je ne serais pas arrivé là si, sorti en poche, dont est tiré le spectacle. Combien de femmes en tout dans le livre?
Bah, dans le premier livre, Je ne serais pas arrivé là si, qui était paru en 2018, il y en avait 30. Et puis dans un deuxième livre qui s'appelle Nous ne serions pas arrivés là si, il y en a aussi une trentaine. Donc en fait, ça en fait 60, mais effectivement.
Et il y en a eu bien plus dans le monde aussi.
Mais oui, bien sûr, il y a chaque semaine dans le monde, il y a une personne différente, pas forcément une femme. Moi, j'ai choisi de réunir les femmes parce que je trouvais qu'en fait, elles ont quelque chose de commun, elles se sont toutes imposées, ces femmes-là, en tout cas, dans un monde dont, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, dont les règles étaient faites par et pour les hommes, et qu'elles avaient quelque chose de très fort mises toutes ensemble. Quand on les écoute, quand on les lit les unes après les autres, on se sent très proche, ça nous rapproche les unes les autres, et je suis convaincu, mais je vous ai entendu un petit peu tout à l'heure, ça nous donne de la force, ça nous donne de la
pêche. C'est ce que j'allais dire. Je vais pas dire que c'est un mal pour un bien et ainsi de suite, mais on a l'impression que les obstacles, finalement, et ça me fait penser à certaines actrices qui, sur scène, remerciaient ceux qui ont dit non dans des carrières, comme si c'était un moteur, finalement, se battre et aller plus loin.
Je n'irai pas jusqu'à remercier ceux qui nous ont fait du mal.
J'ai plus le nom, je me souviens d'actrices qui avaient fait ça au César en disant je remercie tous ceux qui m'ont refusé.
Oui, c'est un peu une boutade. Quand
bien
même,
sûr.
Je pense, même si effectivement ça donne du ressort. Il y a aussi des femmes qui ont été heureuses, qui ont dit envie de dire, je serais pas arrivée là si j'avais pas eu tout cet amour, ou si j'avais pas été galvanisée par, si j'avais pas eu ce prof.
C'est ce que l'on voit aussi dans le spectacle.
Il y a des émerveillements. Il y a Isabella Rossellini qui a eu une vie relativement facile et puis simplement dit, à 50 ans ou après 40 ans, on ne l'embauchait plus. Et donc, je serais pas arrivée là si à 50 ans, j'avais pas décidé d'aller à l'université, etc. Donc, il y a des parcours vraiment très très différents.
On a le sentiment que toutes auraient forcément une suite à cette phrase que vous aviez initiée. Mais est-ce que vous avez eu des refus? Est-ce que vous avez eu des personnes qui ont dit non, mais moi je n'ai pas envie de répondre à cette question?
Écoutez, une fois, j'avoue, c'est la seule fois, parce que j'ai dû en faire plus de 150, et j'étais chez Charlotte Rampling, et puis je sentais que elle était réticente, on tournait autour du pot, puis au bout d'un moment elle dit j'arrive pas. Et donc j'étais très embêtée. Elle me dit c'est pas de votre faute. Et je dis si, c'est que j'ai pas. Pour moi c'était un échec.
Mais vous l'avez pas obligé.
Elle me dit mais non. Comment?
Vous l'avez pas obligé?
Oui. Comme on fait avec toutes les femmes, je comprends pas.
Non. Moi je leur suis toute reconnaissante quand elles. Je trouve ça vertigineux. Je trouve ça très difficile de répondre. Pour ça je suis bluffée par les deux comédiennes que j'ai en face de moi là qui sont dans le spectacle et qui jouent le jeu et qui le disent elles-mêmes. Elles n'étaient pas obligées. Et elles disent à un moment donné avec une fraîcheur, avec une sincérité qui me bouleverse. J'ai vu le spectacle l'autre jour, je n'avais pas vu ce moment de répétition, et waouh, merci, c'est incroyable.
Bah, merci à vous, parce que c'est quand même vous qui êtes à l'origine de tout ce projet. Quel est le point commun, le message, la valeur que porte pour vous ces témoignages?
Ah, écoutez, elles ont toutes leurs spécificités. Valeurs, et quand plusieurs. Je vais à un rendez-vous avec une de ces femmes, ou avec un homme aussi, puisque j'interviewe aussi des hommes, je sais jamais ce qui va se passer. Et donc j'attends, et on me dit, ah, comment vous faites pour avoir des confidences? Je fais rien, j'écoute, mais j'écoute avec avidité. J'ai envie qu'elles me disent profondément ce qui se passe, qu'est-ce qui a été important, le ressort, qu'est-ce qu'on fait pour tenir debout. C'est pas simple la vie réellement, et pourtant j'ai eu la chance d'avoir plutôt une vie joyeuse. Mais c'est pas simple de se tenir debout. On perd des gens, on a des deuils, on a des humiliations, on se prend des coups dans la gueule. Et il faut se tenir droite, il faut continuer, il faut s'aider mutuellement. Et donc j'écoute, j'attends. Donc je dirais qu'il n'y a pas de commun dénominateur, parce que chacun fait ce qu'il peut avec, mais la force des femmes quand même me sidère.
Vous aimeriez que quelqu'un vous fasse l'interview que vous faites aux
Déjà vous, vous ne seriez pas là, vous ne seriez pas là.
Dans ma préface, je le dis forcément, parce que une des raisons si j'ai pour lesquelles j'ai eu envie de réunir au fond, au départ en tout cas, de faire ce livre, c'est aussi de dire que l'arroseur arrosé, si j'avais pas eu une grande histoire d'amour avec ma maman qui m'a donné beaucoup beaucoup de force et qui était très joyeuse. La vie était pourtant pas toujours très simple pour elle, mais elle avait ce ressort et cette joie intérieure qui faisait qu'elle, je crois qu'elle me l'a communiqué, et qu'en plus, même si j'habitais dans un tout petit village au fin fond du Finistère, elle m'ouvrait très grand les horizons et m'a toujours montré que tout était possible et qu'il fallait rêver grand.
Publié chez Poche, je ne serais pas là si. Merci Annick d'être venue à ce
micro.